Aujourd'hui, en ce 6 octobre, c'est la fête de Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux, l'un des ordres les plus impressionnants de tout l'Occident. Et j'ai bien hâte de vous en glisser un mot, ayant vécu moi-même quelque temps à la Grande Chartreuse, et j'ai des amis qui y ont vécu beaucoup plus longtemps que moi. J'en garde un excellent souvenir, d'ailleurs. C'est aussi la fête, aujourd'hui, pour nous, Québécois en particulier, de la bienheureuse Marie-Rose Durocher. Mère Marie-Rose, Eulalie Durocher ou Mélanie Durocher, telle qu'elle aurait dû être baptisée. Il paraît que c'était Mélanie et que le curé un peu sourd a écrit Eulalie. C'est pas bien grave. Elle est née le 6 octobre 1811 à Saint-Antoine-sur-Richelieu, au Québec. Et c'est une vie simple, mais très belle, qui a porté des fruits énormes quand on pense à l'importance de la congrégation des sœurs des saints noms de Jésus et de Marie, et qu'il suffise de songer à l'Institut Vincent d'Indy, l'école Vincent d'Indy, où on enseignait de façon absolument magistrale la musique. Hein, c'est à elle qu'on doit ça. Hein. Mais s'il n'y a pas que ça, qu'elles nous ont laissé, les sœurs de la congrégation des saints noms de Jésus et de Marie. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous disais donc que Mère Marie-Rose est née en 1811, un 6 octobre. Elle est morte aussi un 6 octobre, à 38 ans. Donc, elle est née à Saint-Antoine-sur-Richelieu, au Québec. Au presbytère de Belœil, dit le prion en église aujourd'hui, où son frère Théophile était curé, elle s'est empressée auprès des pauvres, des malades et des personnes âgées, tout en nourrissant une intense vie de prière, et nous verrons ça tout à l'heure en détail. Et le prion en église ajoute « consciente du rôle important de la femme ». Je répète, « consciente du rôle important de la femme dans la société ». Elle fonde à Longueuil, en 1843, la congrégation des sœurs des saints noms de Jésus et de Marie, vouée à la formation intellectuelle, sociale et religieuse des jeunes filles, mais aussi des toutes petites filles, je me souviens quand j'étais jeune, et même des jeunes garçons. Et comme je vous ai dit, elle est morte en 1849, à 38 ans. Dans un petit ouvrage paru il y a quelques années, écrit par Monseigneur Chimichella, qui a écrit tellement de vies de saints, de toutes petites vies souvent, mais parfois plus importantes, il nous raconte un peu cette vie étonnante. Saint-Antoine de Richelieu, Saint-Antoine sur Richelieu, comme il dit, le Richelieu, appelé ainsi en l'honneur du cardinal Richelieu, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'était appelé en l'honneur du cardinal de Richelieu. C'est sur la rive sud de Montréal, au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas ça, là, qui sont à l'écoute. C'est un beau village, hein, du Québec. C'est un village qui a été fondé en 1741, donc 100 ans après Ville-Marie, et ce fut nommé d'après le grand saint populaire, Saint-Antoine de Padoue. C'est une espèce d'église romane qu'elle a, qui porte fièrement gravée sur son fronton la date de 1771, quand y est baptisée notre bienheureuse d'aujourd'hui. Elle s'élevait, cette église, sur le chemin du roi. C'est beau ce nom, du chemin du roi, sur la rive sud. Mais cette église a été incendiée en 1913. Elle a été reconstruite sur les mêmes lieux avec les matériaux qui restaient, dont toute la façade qui est toujours d'époque. À quelques 3 kilomètres au nord de cette église, il y a un petit monument en granit rose qui rappelle le lieu de la maison ancestrale des Durocher, la famille de notre bienheureuse, où elle est née, où elle a vécu près de 20 ans. Et comme son nom l'indique, le village est situé sur les bords très, très fertiles, hein, du Richelieu. C'est magnifique, cette région-là. Et c'est là que vivaient Olivier et Geneviève Durocher, avaient de beaux noms, ses parents. Hein? Pour l'époque, Olivier et Geneviève. Ce sont des noms très à la mode aujourd'hui. Et ce sont de beaux noms. C'était d'excellents cultivateurs qui étaient très attachés à leur terre, très riche, la belle terre là-bas. C'était un couple de grande foi chrétienne et ils étaient déjà entourés d'une énorme famille, 9 enfants, lorsque le 6 octobre 1811 est née cette autre fille, notre Eulalie Durocher. Et le même jour, elle a été conduite à l'église, la paroisse Saint-Antoine, pour y recevoir le baptême. Eulalie était au centre d'une joie générale. Elle a toujours été appelée Eulalie, selon le désir de ses parents. Bien que, en fait, elle a été baptisée Mélanie, et née d'un père donc d'origine normande et d'une mère angevine de l'Anjou. Elle a hérité des vertus du vieux terroir français. Nous étions encore très français à l'époque. Oh, j'ai des documents chez moi très étonnants. C'est une revue qui est parue vers 1878, je crois, et qui nous montre la parade de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Or, on voit le roi de France, le duc de Berry, des ducs, tout le monde était costumé en français. Nous étions encore très attachés à la France. Nous étions demeurés incapables de nous séparer de ce que nous appelions encore dans mon enfance la mère patrie. Nous avons tout oublié ça, hein? Et je me souviens aussi que vers 1856, à Québec, quand le premier bateau français a été autorisé par les occupants anglais de notre pays de remonter le Saint-Laurent, il s'appelait, si je me souviens bien, la Capricieuse. Les Québécois descendaient du cap en criant « Ah, voilà nos gens qui nous reviennent !» Il faut lire ces beaux textes. Et ils pleuraient en retrouvant leurs gens qui leur revenaient après une séparation de 100 ans. C'est émouvant quand on dit ça, très émouvant. Hein? Ils ont été mariés, les parents de notre Eulalie Durocher, à l'île d'Orléans. Quelle merveille d'être marié là, hein? Que c'est beau cette île d'Orléans, où la mère avait été élevée d'ailleurs par une de ses tantes. Mais le jeune couple est venu immédiatement habiter la terre des Durocher sur le Richelieu. Et de leurs 10 enfants, écoutez bien ça, 3 furent prêtres, oui, 2 religieuses, 2 autres sont morts en bas âge, et heureusement, bien, les 3 autres ont assuré la succession et ont peuplé la région et du rocher. La mère d'Eulalie avait étudié, pas n'importe où, elle était allée étudier à Québec chez les Ursulines, qui étaient d'excellentes éducatrices, où elle était influencée par la spiritualité de la vénérable mystique mère Marie de l'Incarnation. Je vous rappelle que ce n'est pas des blagues, hein, ce n'est pas du chauvinisme de ma part de dire que Marie de l'Incarnation, cette Ursuline de Québec au début de la colonie, est l'une des plus grandes mystiques de tout l'Occident, de toute l'histoire du christianisme. Elle a vécu à Québec, elle venait de Tours. Hein. Elle est enterrée à Québec. Quand vous allez à Québec, agenouillez-vous près de son magnifique tombeau au couvent des Ursulines et méditez sur ce que cette femme a été pour nous, auprès des Amérindiens, auprès des enfants, des colons, comme on disait, et surtout cette mystique fantastique qu'elle a été, les écrits qu'elle a laissés. Il faudrait donc qu'on la connaisse beaucoup mieux. Comment se fait-il qu'elle soit si peu connue à Montréal? Elle est mieux appréciée à Québec. Et le Christ avait révélé d'ailleurs à Marie de l'Incarnation, « Ma fille, c'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu ailles élever une maison à Jésus et à Marie. » Et ce rêve de Marie de l'Incarnation, dont le vrai nom était Marie Guyard, est devenu plus tard celui de notre bienheureuse Eulalie Durocher. Toute petite Eulalie accompagnait sa mère à l'église. Elle a fait sa première confession vers l'âge de 7 ans. Vous direz que c'est trop jeune. Non, je ne crois pas. Je crois qu'un enfant, moi je me souviens, à 7 ans, façonnait notre conscience. Et heureusement, nous avions d'excellents confesseurs à Sainte-Madeleine d'Outremont, des prêtres qui avaient de la psychologie, de l'intelligence. Ils savaient nous accueillir dans cette boîte sombre et noire, avec une telle gentillesse que finalement on s'y sentait chez soi. Et même cette espèce d'odeur de renfermé ne nous déplaisait pas, il y avait là comme une espèce de climat qui nous permettait de ressortir de là au grand air et de ressentir à la fois dans notre corps la liberté du bon air, quoi, et puis dans notre cœur et dans notre âme, la liberté retrouvée par le pardon. De son grand-père paternel, qui s'appelait Olivier aussi, c'est un vieux soldat de Carillon, un héros de la défense du Canada français. Elle a appris toute petite de son grand-père la lecture et l'écriture. À l'âge de 10 ans, Eulalie fut par ses parents confiée, pas à n'importe qui non plus, aux filles de Marguerite Bourgeois, les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, dans leur pensionnat de Saint-Denis sur Richelieu, encore un autre lieu historique, sur le chemin appelé d'ailleurs aujourd'hui des Patriotes, quel beau nom. Et ce couvent a été depuis lors démoli, mais à l'âge de 12 ans, elle a fait enfin sa première communion dans cette belle église de Saint-Denis. Faut visiter ça, Saint-Denis. Ça rappelle des grands moments de notre histoire, hein. Et on sait qu'elle y fut accompagnée de sa mère, et au début de sa 13e année, elle est retournée à la maison où elle s'occupa des soins du ménage, jusqu'à l'âge de 17 ans. Monseigneur Chimichella nous rappelle que cette église de Saint-Denis est un monument historique extrêmement important pour le Québec. Commencée en 1792, au moment de la Révolution française, chez nos frères français, que nous avions quitté pour venir nous établir ici. Elle a été terminée 4 ans plus tard, en 1796, ce qui fait surtout sa richesse culturelle. Ce sont les 6 remarquables tableaux de grands peintres français et flamands. Ces tableaux qui ont échappé à la Révolution française en 1789, arrivaient peu après dans notre pays, pour être présentés à l'inauguration même de l'église en 1796. C'est dans les archives paroissiales, ça. C'est donc une église à visiter. Et ces tableaux, on peut le rappeler, ont été vus et admirés par notre jeune Eulalie Durocher. Et Mgr Chimichella nous rappelle que Saint-Denis-sur-Richelieu est passé à l'histoire par ce qu'on appelle les événements de 1837. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des événements. C'est une révolution. C'est une rébellion. C'est le courage qu'ont eu ces gens-là, malheureusement, d'être obligés de prendre les armes pour trouver la justice. C'est l'insurrection, quoi, comme dit le Mgr Chimichella, l'insurrection des patriotes dans la bataille du jeudi 27 novembre 1837. Un groupe de patriotes, ajoute Mgr Chimichella, s'insurgèrent alors contre l'armée anglaise pour protester contre l'oppression et les injustices flagrantes. Dès 6 heures du matin, à 3 heures de l'après-midi, ajoute Monseigneur, durant donc 9 heures d'exaltation patriotique, 300 hommes seulement, avec une centaine de fusils dont la moitié pouvait servir, tinrent tête et obligèrent à la retraite 500 soldats anglais avec autant de fusils et quelques canons. Or, chose étonnante, les patriotes québécois avaient perdu 12 hommes. Et les Anglais, 116. C'est terrible. Hein? Mais les patriotes ont fini par perdre cette rébellion. Et plusieurs furent pendus ici, au pied du courant, sur l'île de Montréal. Ou bien ils ont été exilés et ont tout perdu. Parmi eux, il y avait des gens admirables, des gens extrêmement courageux. Il y avait même un prêtre dont je vous parlerai un jour. Saint-Denis-sur-Richelieu, avec son chemin des patriotes, demeure donc un mot de passe et un symbole. Symbole de la défaite devant les Anglais, mais aussi de l'espérance. De l'espérance d'un peuple qui aspirait à sa liberté qu'il avait perdue à la fin du 18e siècle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, aucun bateau français encore n'avait pu mouiller dans les ports du Canada ou du Québec. Ils étaient séparés de la France presque complètement. C'est alors qu'Eulalie voulut suivre sa sœur Séraphine chez les sœurs de la congrégation à Montréal. Mais hélas, elle a dû bientôt abandonner son rêve de vie religieuse pour cause de maladie. Comme je la comprends, elle devait avoir le cœur brisé. Et la mort de sa mère est venue fixer son sort pour longtemps. À 19 ans, elle sera gouvernante de presbytère. Son frère Théophile venait d'être nommé curé de Saint-Benoît. Oui, de Saint-Benoît. Pas ici, la paroisse d'où je vous parle. Non, non, ça n'existait pas dans ce temps-là. Et elle y demeurera un an. Puis en 1831, elle suivra son frère curé avec son vieux père à la cure de Saint-Mathieu de Belœil. Ce fut un long et beau chemin qui dura 10 ans. On l'appelait l'ange du presbytère. Elle se préparait lentement mais sûrement sa destinée de fondatrice. Et déjà on l'appelait la sainte de Belœil. Elle avait un privilège assez particulier. Elle jouissait du don de la contemplation. Mais sa contemplation passera bientôt à l'action, hein. Elle est devenue toute jeune animatrice sociale, hospitalière auprès des malades, sœur de charité pour les pauvres, institutrice pour les enfants. Elle disait « Que voulez-vous de moi, Seigneur ?» Et le Seigneur allait bientôt répondre. Le curé de Saint-Hilaire, un monsieur Audelin, avait été un bon guide pour elle. Il disait d'elle des choses extrêmement élogieuses. Je les ai lus ailleurs et c'était vraiment remarquable ce qu'il disait, qu'il n'avait pas connu de personne, de gens plus dignes. Je ne connais pas de personne qui soit plus capable de conduire les autres à la perfection, disait-il, lui qui est mort le 9 juin 1841. Le bienheureux Eugène de Masneau, qui sera canonisé en décembre prochain, évêque de Marseille, fondateur des Oblats de Marie Immaculée, et Mgr Bourget, en recherche de prêtre pour son nouveau diocèse de Montréal, était anxieux de recevoir du futur saint Eugène de Masneau, j'ose pas l'appeler saint tout de suite, là. Il voulait avoir des oblats, alors le père Pierre Telmont, un oblat, venait d'être envoyé au Canada pour y établir une maison d'oblat, évidemment, à Saint-Hilaire. Nous sommes en 1841, au moment de la mort de son directeur, M. Audelin. Et en bon religieux, le père Telmont, le français, fut immédiatement frappé par les qualités de l'Allée du Rocher. Il la conduisit dans les voies de la perfection et a prononcé ses vœux privés dans le monde. C'est permis, hein, de faire des vœux privés dans le monde sous la conduite d'un prêtre. Et sa ferveur a commencé à rayonner. Et ce fut le début du désir pour elle de vie religieuse en communauté. Alors le père Telmont, cet oblat, lui faisait entrevoir le manque d'éducation dans les paroisses de campagne, et de là l'idée de fonder une véritable communauté dédiée à l'enseignement. Et Eulalie fut prise de vertige devant un tel projet. Elle, pauvre fille de campagne, fondait un institut, comment faire, hein? Comment imiter Sainte Marguerite Bourgeois? Et puis faire comme Marguerite de l'Incarnation avec les Ursulines à Québec, c'était trop grand pour elle. Elle n'avait pas de bon sens. Elle avait peur. Et pour l'encourager, le père Telmont lui a proposé alors de faire venir une communauté française de Marseille qui était dédiée justement au Saint-Nom de Jésus et de Marie. Et Eulalie, avec une compagne, en serait les premières novices. Alors c'était préférable pour Eulalie. Elle ne serait donc pas fondatrice, mais elle contribuerait, si on peut dire, a fondé chez nous une nouvelle communauté sans la fonder vraiment, simplement à l'accueillir, à l'implanter. Mais comme toujours, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres et les sœurs françaises n'ont pas pu venir. Alors Eulalie a surmonté ses inquiétudes. Mais son frère curé s'y opposait. Même son vieux père, Olivier Durocher, s'y est opposé. Il trouvait que ça n'avait pas de sens. Et avec deux compagnes, pourtant, elle a ouvert la première maison de la nouvelle communauté qui a pris le nom de les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. C'était à Longueuil, en face de l'île de Montréal, le 28 octobre 1843, il y a donc 152 ans dans quelques jours. Et le Canada venait de s'enrichir, on peut dire, d'une nouvelle communauté, qui était l'une des plus grandes gloires, on peut dire, assurant l'éducation de milliers de jeunes filles. Et Mélanie Eulalie Durocher était la fondatrice, et dorénavant, elle s'appellerait Mère Marie-Rose. Elle avait 32 ans. Son aventure religieuse dura près de 6 ans. Le père Telmont l'avait guidée. Le père Oblat François Allard présidera toute sa formation définitive et à celle des premières sœurs. Le père Allard ne la quittera que quelques semaines avant sa mort. En effet, en septembre 1849, il est allé seconder le nouvel évêque Oblat de Bytown. Bytown, c'est quoi ça? C'est Ottawa. Cet évêque s'appelait Monseigneur Gigue. Vous savez que les premiers évêques de Toronto, d'Ottawa, c'était des francophones, ces villes qui sont devenues anglophones. Et à partir du 9 août 1844, on a quitté la toute petite maison de Longueuil, puis on s'est transporté dans une deuxième un peu plus spacieuse. Le jour de l'Immaculée, le 8 décembre 1844, il y a 150 ans, Monseigneur Bourget a reçu la première profession et la congrégation des Saints Noms de Jésus et de Marie naissait officiellement, mais les épreuves ont commencé avec la mort prématurée de deux des premières religieuses à 23 et 21 ans. Mais comment vivait-on? C'était invraisemblable, hein? Une visite rapide dans la nouvelle demeure pourrait vous donner une idée. On saluait la Sainte Réserve, Jésus, dans le Saint-Sacrement, dans une toute petite chapelle. Et quand on arrivait dans les appartements des sœurs, bien, qu'est-ce qu'il y avait dans le corridor? Il y avait 4 tonneaux qui supportaient des planches qui n'étaient pas rabotées. C'était le réfectoire des sœurs. Mais les chaises, où étaient-elles? Bien, il n'y en a qu'une au bout, et c'était là que Mère Marie-Rose devait, par obéissance, l'occuper. Les autres sœurs mangeaient debout dans le corridor. D'ailleurs, le menu était peu compliqué, un plat ou deux. Il arrivait souvent que la supérieure, Mère Marie-Rose, soit obligée de dire après le Benedicite, « Mes sœurs, je n'ai pas de pain à vous donner aujourd'hui. Sur la fameuse table fumaient quelques pommes de terre. » Et la merveille, c'est que personne ne faisait la grimace. Il n'y avait que de la joie et une grande confiance en Dieu. Un matin, Sœur Marie-Marthe vient avertir ma mère, « Il n'y a plus de pain. » Allez en demander à notre Seigneur, et à peine la sœur était-elle en prière que le boulanger s'est présenté. Il n'y avait pas de dortoir, secret qu'il fallait garder. Ce soir, quand toutes les pensionnaires se seront endormies, en effet, les sœurs vont descendre des paillasses du grenier, les étendre par terre dans les classes, et demain matin, bientôt, on fera le contraire, et voilà, le tour est joué, et cela durant 7 ans. Et on comprend que Monseigneur n'ait pas hésité à abréger le temps des vœux temporaires, et les trois fondatrices et deux autres sœurs prononcèrent leurs vœux perpétuels le 15 août 1846. Le curé de Longueuil ne voyait pas d'un bon œil la présence de Français, de Père Oblat Français. Bon, quelle idée. Il a mis la fondatrice en demeure de choisir entre lui et eux. Nous sommes en décembre 1847. Alors, c'était difficile de heurter davantage le cœur de Mère Marie-Rose qui aimait ses oblats français. Il y avait dans les coulisses ni moins que le futur apostat Chiniki, le fameux père Chiniki, qui était protégé par le curé, mais qui était refusé par les religieuses. Elle ne voulait pas entendre ses conférences. Elle sentait bien, elle se méfiait de ce fameux Chiniki qui apostasira. C'est une triste histoire que celle de l'abbé Chiniki, qui était alcoolique et adultère. Les épreuves offertes ont produit des fruits. En septembre 48, 2 ans après Belleuil, coup sur coup, sont ouvertes des maisons à Saint-Timothée, Saint-Lin, etc. Et le 6 octobre 1849, le jour même de son anniversaire de naissance, Mère Marie-Rose est née, comme on dit en langage spirituel, elle est née à la vie éternelle. Elle n'avait que 38 ans et en peu de temps, elle était devenue la mère d'une grande famille. Le lendemain de sa mort, Monseigneur Bourget déclarait « Je l'ai prié de m'obtenir la même ardeur pour gouverner mon diocèse qu'elle en avait pour vous diriger. » Sa renommée de sainteté n'a fait que rayonner de jour en jour. Il y avait 44 religieuses en 1850 qui dispensaient l'enseignement dans 4 maisons, Belleuil, Saint-Timothée, Saint-Lin et Longueuil. Au cinquantenaire en 1894, elles étaient 900 dans 84 établissements d'éducation. Elle a été béatifiée en 1982. Il y a maintenant 1993 sœurs dans cette congrégation. Elles sont en Afrique aussi, au Brésil, aux États-Unis. Au Québec, il y en a 800. On peut parler en terminant, en mentionnant le nom de sœur Marie-Stéphane, fondatrice de l'école Vincent d'Indy, immense et merveilleuse sœur de la congrégation des sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. J'ajouterai que quand j'étais enfant, j'habitais avenue d'Avard à Outremont, pas loin de la maison mère des sœurs de la congrégation des Saints-Noms de Jésus et de Marie, et durant les vacances, il m'arrivait d'aller servir parfois pour des funérailles dans cette immense chapelle où, qui était remplie de centaines de sœurs, en costume évidemment. Il y avait le catafalque très sobre, 4-5 personnes laïques dans la première rangée qui venaient de la campagne, très souvent. C'était tout ce qui restait de la famille. Et toutes ces sœurs qui chantaient d'une seule voix. C'était très, très impressionnant dans cette magnifique chapelle, où tout était impeccable. Je passe donc maintenant à Saint-Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux. J'ai fait connaissance avec les Chartreux en 49, en séjournant dans une chartreuse extrêmement importante qui est dans le sud de l'Angleterre, à Parkminster, près de Horsham, dans le comté de Sussex, où j'ai eu accès, un privilège exceptionnel, il fallait un mot de passe que j'avais obtenu, j'avais 24 ans, je suis passé plusieurs jours là, et j'ai été reçu à bras ouverts par le prieur, qui était un ancien prêtre anglican, ainsi que par le célérier, celui qui s'occupait du fonctionnement de cette immense chartreuse construite par Viollet-le-Duc, ce grand architecte qui aimait le gothique au siècle dernier. Et celui qui s'occupait donc des affaires était aussi un ancien prêtre anglican, donc 2 anciens anglicans qui me recevaient sous le costume de chartreux. Et j'étais vivement impressionné par la qualité de leur vie. Par après, j'ai fait un séjour à la Grande Chartreuse. Saint-Bruno est un maître éminent de la contemplation et de la solitude. Il est vénéré par ses nombreux disciples à travers les siècles. Il est vénéré maintenant aussi par les moines de Bethléem et les sœurs de Bethléem. Il est vénéré aussi par d'innombrables laïcs qui ont eu des contacts, comme je les ai eus avec eux. On ne saurait que demeurer fidèle à Saint-Bruno. C'est une des figures les plus attachantes parmi ce qu'on appelle les humanistes de la Renaissance des 11e et 12e siècles, ou la pré-Renaissance. Mais pourtant, il a été assez vite oublié à l'époque. Il est mort dans le sud de l'Italie, en Calabre. Il a été enterré dans un ermitage, où son tombeau ne pouvait évidemment pas devenir célèbre. C'était trop loin, malgré les miracles qu'on lui attribuait. Ses disciples, lui, étaient établis bien loin de là, les principaux disciples. Et comme ils se souciaient davantage de se sanctifier ensemble que de célébrer la gloire de leur maître Saint-Bruno, la plupart de ses écrits sont perdus, mais il en reste. Il faut chercher un peu partout des renseignements. C'est très succinct. Il faut éviter les légendes que les siècles ont accumulées. Il est né, Bruno, si on le sait, à Cologne, en Allemagne. À Köln, en Allemagne. Vers 1030-1035, d'une famille plutôt noble, il avait reçu une excellente éducation. Il étudiait d'abord dans sa ville natale, à Cologne, où il y avait plusieurs écoles qui étaient très importantes. Il a peut-être étudié à celle de la collégiale, la grande collégiale, Saint-Cunibert, dont il est devenu d'ailleurs chanoine. Puis il est venu en France, à Reims, en Champagne, pour compléter sa formation. Peut-être connu de mes ancêtres, qui viennent de là, comme les ancêtres de nombreux Québécois. Gerbert, le futur pape Sylvestre II, avait donné à l'école de Reims un renom qui n'avait pas disparu. Et rentré à Cologne, Bruno a été rappelé à Reims encore en 1056 pour y devenir écolâtre, c'est-à-dire professeur d'école, si on veut dire, sans être agrégé au clergé de la cathédrale. De ce qui a pu être la matière de son enseignement, on ne sait pas. Il reste quoi? Deux commentaires de la Bible. L'un des psaumes, c'est pas mal, commentaire des 150 psaumes, et l'autre de toutes les épîtres de saint Paul. C'est énorme. Le premier fut probablement composé à Reims et le second achevé en Calabre où il est mort, dans le sud de l'Italie, là. Là où il y a de la mafia aujourd'hui. Il faut y reconnaître, dans son style, un style de professeur. C'est clair, c'est concis, c'est net. Mais il base son enseignement beaucoup sur saint Augustin. En tout cas, pour ses contemporains et ses disciples, jusqu'au XVIe siècle, il a été maître Bruno. Et les louanges ne lui ont pas été ménagées de son temps. Et quand il a passé la circulaire, quand on a passé la circulaire qui annonçait sa mort, eh bien, beaucoup de chartreux se sont rappelés le souvenir de ce maître qui avait pourtant abandonné non seulement sa chair depuis un quart de siècle, mais qui avait abandonné son supérieur, la grande chartreuse. On dit de lui qu'il était éloquent, de cette éloquence réservée des chartreux. C'est une éloquence contenue, une éloquence intérieure. Il était expert dans tous les arts. Il était même un bon dialecticien, il savait raisonner. C'est un bon grammairien, il connaissait de façon parfaite l'écriture. C'était un bon rhéteur, il savait même prêcher devant des foules. On disait qu'il était une fontaine de doctrine, et le docteur des docteurs. Bon, on peut trouver là de l'hyperbole, hein, d'exagération. Mais par contre, d'anciens élèves portent le même jugement. Le plus illustre de ces anciens élèves, c'est qui? Eudes de Châtillon. Eudes de Châtillon est devenu pape sous le nom d'Urbain II. Il est mort 2 ans avant son maître Bruno, auquel il était toujours resté fidèle. Et ce n'est pas par un simple hasard que Bruno a été le maître d'un des grands papes réformateurs du XIe siècle. Bruno était un partisan convaincu de la réforme de l'Église, hein, et il avait imprégné son enseignement de cet esprit, puis il n'a pas craint de se lancer même dans la bataille quand les circonstances y obligèrent. Il s'est battu, et je vous ferai grâce des batailles qu'il a menées. C'est long, c'est compliqué un peu, mais il s'est battu contre des évêques qui n'avaient pas la foi, des évêques simoniaques qui vendaient les titres. C'était terrible. Et pendant quelques années, maître Bruno avait été obligé d'abandonner son enseignement. Il avait dû sortir de ses préoccupations habituelles. Il avait été touché, lui aussi, par la vague de sainteté qui déferlait alors sur la France. Et à cette époque, en effet, nombre de fidèles. Beaucoup étaient des personnages éminents, en particulier des écolâtres ou des maîtres. Bien, ils étaient nombreux à quitter le monde pour se sanctifier en menant une vie hérémétique, d'ermite, hein. Et c'est ainsi que se sont fondés grands monts qui est connu, Fontgombault, l'abbaye de Fontgombault, je suis allé plusieurs fois, Fontevraud, qui existe encore mais qui est un centre d'art, Molème, qui nous rappelle le début des cisterciens, Saint-Robert de Molème ayant fondé là les cisterciens, et Citeaux, d'où vient le nom des cisterciens. Illustre à cause de Saint Bernard. Et c'est à Molème qu'en 1082, Bruno s'est rendu, attiré par la réputation de l'abbé Saint-Robert. Et ce monastère, fondé en 1075 par la réunion des ermites de la forêt de Collan, n'avait pas encore des statuts bien définis, et Bruno a préféré, à la vie de communauté, une vie semi-érémétique, avec seulement deux compagnons, qui avaient comme nom Pierre de Béthune et Lambert de Bourgogne, dans un domaine qui avait été donné à ce Robert de Molème, Saint-Robert de Molème, en 1081, et situé à quelques lieues au nord de Molème. Ça s'appelait Sèche-Fontaine. Mais pourquoi, ben, Maître Bruno ne l'a pas écrit? Il a quitté cet endroit. Son idéal de vie était certainement différent de celui de Robert, qui, lui, était cénobite de tempérament, c'est-à-dire qu'il préférait vivre avec toute une communauté. Il était aussi de formation beaucoup moins intellectuelle que Saint Bruno. Or, c'est à l'abbé de la Chaise-Dieu, où je suis allé, il ne reste presque plus rien de la Chaise-Dieu dans le centre de la France. L'abbé de la Chaise-Dieu s'appelait Séguin d'Escoté, que Maître Bruno a dû de trouver enfin le lieu de sa retraite, qui porte le beau nom de la Chartreuse. Il s'est inspiré, Saint Bruno, des pères du désert, de Saint Jérôme, de Saint Benoît, et des premiers ermites de l'Église. Et alors donc, lui et ses compagnons, à la Chartreuse, ont partagé leur journée entre la prière et le travail manuel, certes, évidemment, mais aussi le travail intellectuel et la copie de livres, car il n'y avait pas d'imprimerie à cette époque, et Maître Bruno ne crut jamais devoir renoncer à la science et à la connaissance de la Bible. La copie des livres fut tellement en honneur que Guibert de Nogent, décrivant la Chartreuse un quart de siècle plus tard, remarquera que, bien que ces moines observent en tout la plus grande pauvreté, ils ont déjà constitué une très riche bibliothèque. On est loin de ce qu'écrivent les journalistes de la presse en 1991, j'avais gardé ça. On avait publié la photo d'une chartreuse, la fameuse chartreuse de Laverne, ce sont des ruines plutôt. Puis il écrit, le journaliste, j'ose pas le nommer, assez connu, la chartreuse de Laverne, l'un de ces lieux mystiques, mystérieux, quasi inaccessibles du sud de la France, où les moines se réfugiaient pour échapper au diable qui le plus souvent prenait la forme d'une femme. Quelle quétainerie! Que c'est imbécile! Ça me fatigue, ces journaux, qui ne comprennent rien à rien. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que des hommes qui se retirent dans un site qui est encore aujourd'hui d'une majestueuse austérité, hein, il faut y aller, c'est fantastique. Ça peut être d'un aspect effrayant dans un sens. Et le climat se chargeait, comme aujourd'hui, d'infliger des mortifications. Moi, j'ai tellement eu froid à la Grande Chartreuse, je ne saurais vous dire jusqu'à quel point j'ai eu froid dans ce mois de février 1950. Enfermé dans cette maison, j'arrivais pas à la chauffer parce qu'il fallait faire chauffer une petite tortue, un petit poêle. J'avais jamais fait de feu de ma vie. Les moines observaient, comme ils observent toujours, des jeûnes fréquents. Ils gardaient, comme ils le gardent encore, l'abstinence presque perpétuelle certains jours, le vendredi en particulier. Ils mangeaient du fromage, du poisson, quand on leur en donnait. Aujourd'hui, ils en ont. Ici, au début, ils habitaient deux par deux. Petit à petit, ils se sont retirés vraiment comme ermites dans des cellules individuelles. Ils ne se réunissaient que pour certains offices, comme aujourd'hui, et pour la messe, mais à cette époque, elle n'était pas célébrée quotidiennement, s'il faut en croire un passage de Guibert de Nogent, qui écrit « Ils entendent la messe au dimanche et aux fêtes solennelles, si je ne me trompe. » La nouvelle fondation prospéra vite grâce à la protection de l'évêque de Grenoble et de l'abbé de la Chaise-Dieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ses ermites, les Chartreux, étaient arrivés en juin 1084. Ça a été célébré en 1984. C'était considéré comme le 900e anniversaire. Et dès l'année suivante, ils avaient construit une église déjà. Ils étaient devenus les maîtres du terrain qu'ils occupaient. Et Saint-Bruno pouvait se croire définitivement fixé. Le 12 mars, 4 ans plus tard, 1088, Eudes de Châtillon fut élu pape et prit le nom d'Urbain II. Désireux de s'entourer de conseillers mûrs et capables, il est entré aussitôt en relation avec divers personnages et entre autres Hugues de Cluny, le fameux, bon, il faudrait que je vous en parle un jour, l'abbé de Cluny, Hugues de Cluny, et Anselme du Bec aussi, voilà un autre moine que j'aime beaucoup. L'abbaye du Bec est loin, existe toujours et elle est habitée par des moines. Ces hommes-là pouvaient difficilement se déplacer. Alors le pape a invité Maître Bruno, dont il avait été l'élève, à venir le rejoindre à Rome. Et le pauvre est allé jusqu'à Rome. Il a vécu là pendant un bon bout de temps. Il a essayé d'établir une espèce de chartreux, ça n'a pas été facile. Mais finalement, il s'est rendu en Calabre. En 1092, il avait été chargé par le pape d'une mission auprès de Roger de Sicile. On l'avait peut-être envoyé là pour prendre possession de l'archevêché de Reggio qui lui a été offert à ce moment, mais il l'a refusé, Saint-Bruno. Un voyage en Calabre, cette terre promise des ermites au Moyen-Âge, disait-on à l'époque, aurait pu lui donner l'envie de s'y fixer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès 1092, il s'était établi dans le diocèse de Squillace. Aujourd'hui, Serra San Bruno, ça a pris son nom. Au lieu dit la Torre, et c'est là qu'il a été enseveli, s'est retiré dans un ermitage. La protection de ce bon pape Urbain II ne pouvait lui faire défaut, évidemment, et Roger de Sicile entretenait des bonnes relations avec la papauté. Il n'aurait eu aucune raison de s'inquiéter de la présence de quelques ermites de plus dans ses états. Et Maître Bruno passa à la Torre les dernières années de sa vie. Et non loin de l'ermitage Sainte-Marie, il en a établi un second, Santo Stefano de Bosco, ou Saint-Étienne-du-Bois, si vous voulez en français, qui devint plus important que le premier. À son ami Roger le Vert, V-E-R-D, D comme dans Denise, à son ami Raoul le Vert, pardon, prévôt de l'église de Reims, en Champagne, en France, il répond en le remerciant de sa lettre que son corps se porte bien, puisse-t-il en être autant de son âme. Il décrit sa retraite. « J'habite en Calabre, avec quelques frères bien religieux, un ermitage assez éloigné des habitations des hommes. » Il ajoute plus loin une très belle réflexion spirituelle. « Quand l'âme a été fatiguée par une rude discipline et par des études spirituelles, il est bon qu'elle puisse se relever et respirer. » Car si l'arc est toujours tendu, il se relâche et devient inutilisable. En d'autres termes, de trop grandes pénitences sont très mauvaises. C'est ça que ça veut dire. Saint Bruno ajoute, « Quant au profit et à la joie qu'apporte la solitude et le silence de l'ermitage à ceux qui les aiment, seuls ceux qui les ont expérimentés le savent. » J'ai trouvé d'ailleurs la suite de ce texte magnifique, et c'est superbe. Saint Bruno continue, il écrit, « Là, en effet, les hommes forts peuvent se recueillir autant qu'ils le désirent, demeurer en eux-mêmes, cultiver assidûment les germes des vertus et se nourrir avec bonheur des fruits du paradis. Là, on s'efforce d'acquérir cet œil dont le clair regard blesse d'amour le divin époux, et dont la pureté donne de voir Dieu. » Ce sont des phrases compliquées, peut-être, mais pourtant elles sont si simples et si belles. Acquérir cet œil. Vous savez, les ésotéristes aujourd'hui nous parlent du troisième œil, là. Mais dans le christianisme, on en parlait aussi. C'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde. Là, dans le silence, on s'efforce d'acquérir cet œil dont le clair regard blesse d'amour le divin époux, et dont la pureté donne de voir Dieu. C'est ça la grande différence entre la contemplation chrétienne et la contemplation orientale. Ce n'est pas du tout la même chose. Chez nous, nous contemplons Dieu. C'est un Dieu d'amour qui s'est révélé à nous. C'est tout autre chose. C'est infiniment plus grand et plus beau. Et Saint Bruno ajoute, là, on s'adonne à un loisir bien rempli. Et l'on s'immobilise dans une action tranquille. Là, Dieu donne à ses athlètes, pour le labeur du combat, la récompense désirée, une paix que le monde ignore, et la joie dans l'Esprit Saint. Croyez-moi, je l'ai expérimenté, et c'est vrai. Et combien je regrette de ne plus y être. C'est très dur. Quand Saint Bruno arrive dans le désert de Chartreuse, a-t-il déjà en lui une idée de ce que sera l'organisation de son ermitage? Bruno n'a jamais écrit de règles monastiques, ce n'est pas un législateur. N'oublions pas en fait que cet homme, c'est un intellectuel, qu'on peut imaginer à l'écoute de son temps, attentif au mouvement de l'Église et aux tentatives érémitiques qui surgissent dans ce temps-là. Il a entendu parler de certains échecs d'ermites et aussi de réussites de fondations religieuses. Il en a tiré un enseignement. Il connaît l'erreur de principe. Quelle est l'erreur de principe? Quelle est l'erreur qui mène aux mauvaises fondations? C'est la vaine gloire, celle qui se cache derrière un choix de vie d'extrême solitude, trop austère et inhumaine. Peut donc pas exagérer. Mais Saint Bruno est conscient aussi que sa vocation perdra une partie de son identité s'il accepte, en plus grande part, des éléments trop communautaires. Et ce que nous avons déjà rencontré en lui, et qu'il caractérise profondément, là, c'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit de mesure, c'est son sens d'adaptation aux réalités. Et ça va jouer un rôle déterminant dans le quotidien de ces solitaires. Vous savez, quand on est solitaire en Chartreuse, ce n'est pas ce qu'on pourrait penser. C'est une solitude relative. Quand on examine le petit domaine où on est enfermé quand on est chartreux, et où se passe la majeure partie de sa vie religieuse, on reconnaît qu'on lui donne bien maladroitement le nom de cellule. C'est pas une cellule. En réalité, c'est une habitation, une maison, assez considérable d'ailleurs. J'étais surpris moi-même. C'est composé d'un rez-de-chaussée là, qui va au niveau du grand corridor, du grand cloître, qui est immense, hein, ça, un quart de kilomètre ou un demi-kilomètre, quand on fait tout le tour, puisqu'il y a une trentaine de maisons séparées par des jardins qui donnent sur cette rue qui est le cloître. Au centre de ce grand cloître qui forme un immense rectangle, on voit les tombes de ceux qui nous ont précédés et qui sont morts souvent à 80, 90 ans. Alors, la maison, donc, donne sur un rez-de-chaussée, puis un étage. Et c'est surmonté d'un grenier aussi. Il y a un jardin qui est assez spacieux. Ça complète l'ensemble. Et au rez-de-chaussée, on rentre dans ce qu'on appelle le promenoir. C'est comme un corridor. Il y a une croix au bout. Un petit corridor dans lequel on peut se promener comme un lion en cage. Mais c'est pas comme un lion en cage, c'est comme un amoureux qui attend le grand jour mais qui profite de chaque instant de cette vie ici-bas pour être avec Dieu, qui se promène quand il fait mauvais dehors pour faire un peu d'exercice. Vient ensuite une grande pièce quand on monte, partagée en deux parties. Non, c'est quand on descend, ça. C'est formé par un endroit où on bûche le bois, puis il y a un petit atelier aussi. Il y a un banc de menuisier aussi, les outils nécessaires au travail manuel. Dans d'autres maisons, il y a un atelier de couture pour ceux qui s'occupent des vêtements, des ateliers de cordonnerie pour ceux qui s'occupent des sandales, etc., etc. Il y en a qui ont des tours de potier pour fabriquer des pots. Et quand on monte à l'étage supérieur, bien devant nous s'ouvrent deux pièces. La première, c'est une sorte d'antichambre qui peut servir d'atelier pour de menus travaux de dessin et de peinture. Elle est ornée, d'ailleurs, d'une statue de la Sainte Vierge. On l'appelle la salle de l'Ave Maria. Quand on entre, on s'agenouille toujours devant la statue et on récite un Ave Maria. C'est une pratique pieuse qui remonte à quelques siècles. Parfois, on peut voir une image du Sacré-Cœur. Et la seconde pièce, c'est la cellule proprement dite. C'est là que le chartreux mène son existence d'ermite vrai, en tête à tête avec Dieu, priant pour son salut et pour celui de ses frères. Ça sert tout à la fois de chambre à coucher. Ça sert d'oratoire, car il y a une stalle. Ça sert de réfectoire, car on y mange, les repas étant apportés à chacune des maisons sur un immense chariot, sans qu'on puisse voir qui nous les a apportés, puisqu'ils sont déposés dans le mur. Ça sert de salle d'études, il y a des meubles bien simples, une paillasse remplie de paille, un oreiller rempli de paille. C'est dans la brasure de la fenêtre qu'il y a une table placard qui est aménagée pour les repas, et on peut voir le jardin et le mur devant soi. Vous direz que c'est exagéré, sans doute. Mais je vous conseille de lire certains livres. L'un des meilleurs, c'est Monseigneur Jacques Martin, préfet de la Maison Pontificale. Quel titre! Malgré son titre, c'est un homme bien admirable que Jacques Martin qui a écrit ce beau livre sur Don Innocent le maçon, publié chez Tiki. C'est un livre à lire parce qu'en étudiant la vie de ce grand chartreux, on apprend le fond de la pensée des chartreux. Il y a aussi toutes sortes de livres. La Grande Chartreuse par un chartreux, un livre tout illustré. On peut parfois en trouver comme ça en bibliothèque. C'est paru en 1984. Celui de Surdon Innocent est paru, en quelle année ça? C'est paru en 74, voyez-vous, on ne les trouve plus, c'est dommage. Mais il y a les chartreux et l'art qui est passionnant. C'est sur l'art qu'a développé les chartreux à travers... Parce qu'il y avait des chartreuses un peu partout, il y en avait beaucoup plus dans le temps. Un, pour votre curiosité qui pourrait vous satisfaire, c'est de Robin Bruce Lockhart. C'est La vie cachée des chartreux, publié aux éditions Nouvelle Cité en 1990. Je vous le conseille fortement, avec des photos d'un livre un peu journalistique.